Donc bonsoir et merci d'être présent pour assister à ce sixième opus de la 14e édition de notre festival Cinéma et Droits de l'Homme, dans cette forme virtuelle, non physique, en ces temps de Covid. C'est-à-dire qu'au lieu d'être en salle comme les 13 années précédentes, nous proposons le visionnage des films en VOD, suivi en fin de semaine, le samedi, par ce débat en présentiel sur Zoom. Notre festival Touzain et plus généralement en Midi-Pyrénées, est organisée depuis 14 années par un collectif qui réunit Amnesty International, le CCAFD Terre Solidaire, l'École des droits de l'homme, Médecins sans frontières, Médecins du monde et les Amis du monde diplomatique, évidemment pour la plupart de ces entités dans leur version locale, enfin ou régionale en tout cas. Je représente ce soir Médecins du monde. Notre but, c'est évidemment la présentation de films dédiés à la défense et à la promotion des droits humains dans leurs différents aspects. Nous cherchons à sensibiliser, à informer les gens et à échanger avec des personnes expertes, comme on dit, quant au sujet traité. On ne pourra pas passer cette année tous les films qu'on avait prévus, mais on a vu ça avec notre partenaire, la plateforme des Mutins de Pangée, qui nous a aidés à choisir ceux qu'ils pouvaient proposer parmi le programme que nous avions préparé. Ce soir, nous allons donc organiser un échange à propos des blessures de guerre en nous appuyant sur deux documents que, je l'espère, vous avez pu visionner, les personnes présentes, sur la plateforme. D'une part, le film Gaza, un ballon, une jambe, du réalisateur Patrice Forget, et d'autre part, un film intitulé Syrie, Irak, Yémen, une deuxième vie, porté par Médecins sans frontières et Al Jazeera. Pour nous aider à débattre, nous avons invité et nous avons l'honneur de recevoir Patrice Forget, réalisateur du film sur Gaza, et Patrick Hérard de MSF, que je vais vous demander tous les deux de vous présenter rapidement, enfin très rapidement, qui commence. Patrick, puisque tu étais là le premier sur ce Zoom.
Patrick.
Patrick, est-ce que tu peux rapidement te présenter?
Oui, bien sûr. Donc, je suis Patrick Erhard, je suis chirurgien, je suis orthopédiste, je suis le responsable des missions traumato pour MSF France. Je connais particulièrement donc ces zones puisqu'on a une mission MSF à Gaza. Une mission de reconstruction donc sur les de reconstruction pure donc sur des blessés de en particulier d'Irak, de Syrie et du Yémen. Une mission à Aden et des missions sur le nord de la Syrie essentiellement pour de la brûlure. Je suis également consultant pour l'OMS et chairman pour ce qui est les tout ce qui est désastre pour la Société internationale de chirurgie orthopédique. Voilà.
Patrice, pardon.
Oui, je suis Patrice Forget, je suis réalisateur depuis déjà 30 ans. Je produis des films documentaires. J'ai fait quelques films sur les droits de l'homme, en particulier le portrait de l'abbé Grégoire, et puis un autre film qui s'intéressait aussi à Émile Gallet, le chef de file de l'Art Nouveau à Nancy, qui s'était engagé à travers ses œuvres. Et puis, pour différentes raisons, je me suis mis sur les footballeurs amputés de Gaza. On aura l'occasion de peut-être de parler de l'origine, pourquoi je me suis intéressé à ce sujet-là. Et j'ai fait ce film, et voilà.
Ok, donc ces deux documents présentent des personnes atteintes par des blessures de guerre dans ces conflits du Moyen-Orient qui sont tous assez irrespirables et qui semblent sans issue. De nombreuses personnes, civiles en particulier, sont mutilées, défigurées, etc. Souvent des enfants, des jeunes gens, par des balles explosives, des mines, des bombardements de logements civils, etc. La liste est longue. Nous, les humanitaires, nous avons souvent fait campagne pour la protection des populations civiles. Je me souviens en particulier de celle du CICR intitulée Même la guerre a des limites dans les années 90, mais rien ne change. Et le droit international humanitaire reste souvent assez ignoré. Les deux films parlent en fait de l'après-blessure, de la deuxième vie, comme c'est bien dit dans l'un des documents, de la deuxième vie des personnes atteintes, l'un abordant plutôt le sujet des soins physiques et psychiques et de la réhabilitation. Et l'autre en s'intéressant à quelque chose de la résilience, à travers le sport en particulier. Bon, tout le monde peut participer au débat en posant des questions. Je crois que le plus simple, puisqu'on est très peu nombreux, c'est que ce soit oralement, hein. Ce qu'on peut faire, c'est si on veut poser une question, c'est aller sur le petit plot réaction et faire lever la main comme je fais là. Hein, la main se lève, vous voyez, et donc on saura que vous voulez parler. Sinon, vous pouvez aussi éventuellement écrire sur le chat que je vais ouvrir. Voilà. Bon. Pour lancer la discussion, je demanderai un truc un peu bête, qui est, j'essaie d'enlever ma main d'abord, voilà, qui est en quoi justement, pour eux, leur document cadre correctement à la problématique des réhabilitations post-blessures de guerre. Qui veut commencer parmi les deux? Peut-être Patrick, non? Comme vous voulez, puisque toi, tu es plutôt dans le soin et le.
Oui, enfin, bon, le problème, enfin, ce qui est important, ce que montre bien ce film, c'est qu'en fait, la chirurgie, bah, c'est très bien. Ça permet, avec beaucoup de difficultés, de reconstruire des membres et de ce que j'appelle non pas de sauver des vies, mais de sauver une qualité de vie, mais que cette chose ne s'arrête pas à la chirurgie. C'est-à-dire que, ce que je veux dire par là, c'est que si derrière la chirurgie, on n'a pas alors, une physiothérapie, et ça j'insiste là-dessus parce que c'est souvent le parent pauvre, mais également une psychothérapie. Donc, alors cette psychothérapie, elle passe par beaucoup de choses. Si je prends le cas de la structure qu'on a à Amman où on fait cette reconstruction, pour les enfants par exemple, on a également une école dans l'hôpital, de façon à ce que les enfants puissent continuer à avoir une vie scolaire. Et de ne pas être éloigné de tout. Après, il est évident que le sport fait partie de cette reconstruction psychologique qui est complètement, qui est fondamentale. La chirurgie seule, ça ne suffit pas.
Patrice, si tu veux introduire un petit peu.
Moi, ce que je peux dire par rapport aux jeunes footballeurs que j'ai suivis, c'est que en fait, effectivement, le sport leur sert de, enfin, leur permet de faire je pourrais dire, un rebond, et finalement, ça sert un peu de psychothérapie, quoi, je trouve. Enfin, c'est-à-dire qu'ils trouvent dans le sport quelque chose qui les maintient et qui les aide à surpasser leurs blessures, quoi. Ça, j'ai été très, très surpris parce que parmi les 8 blessés, donc il y avait des blessés très récents, il y en avait 6, 5 ou 6 qui étaient blessés sur la marche du retour en 2018. Et donc, ils se sont mis dans l'équipe de football au bout d'un an après leur blessure. Et donc, il y en avait 5 qui étaient là, et il y en avait un ou deux qui, visiblement, n'avaient pas fait encore leur deuil de leurs jambes. Et c'était extrêmement difficile pour eux. Par contre, ce que j'ai constaté, je ne suis pas resté longtemps avec eux, hein, je suis resté 3 jours. Mais ce que j'ai constaté, c'est que ils étaient, comment dire, le fait de faire du sport ensemble, ça faisait une espèce d'émulation. Et l'émulation était renforcée par le fait qu'ils avaient une cause à défendre, celle de la Palestine, quoi. Et je crois que ça, c'était très fort. Et ça leur aidait à surmonter le handicap qui venait de leur arriver, quoi.
Ok, très bien. Est-ce que quelqu'un veut déjà poser une question? Et si personne ne veut, j'ai déjà une petite question. Moi, c'est que, à la lumière de ce que vous dites et quand on voit les films, on a quand même l'impression qu'il y a beaucoup, beaucoup d'enfants et de jeunes gens qui sont atteints. Est-ce que c'est une idée, enfin, est-ce que la proportion est normale ou est-ce que s'il y a aussi des adultes, des personnes âgées, enfin, etc., qui sont atteints dans ces affaires, dans ces conflits bizarroïdes, enfin, meurtriers?
En ce qui concerne Gaza, c'est surtout des jeunes, hein, puisque tous ceux qui ont participé en particulier à la marche du retour, c'est des jeunes et les Israéliens les ont essentiellement tirés aux jambes. Ils les ont tirés de très loin, hein, pratiquement tous ceux qui étaient atteints, c'était tirs à longue portée et avec en plus des balles. Alors ça, on pourra peut-être en parler. Il y a une polémique un peu là-dessus, les Israéliens garantissant qu'ils ont utilisé des balles entre guillemets conventionnelles. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça parce que quand on voit les blessures qui étaient occasionnées, c'est plutôt le type de balles qu'on appelle doum-doum, c'est-à-dire des balles qui vont faire des explosions complètes du membre. Avec un trou d'entrée qui est pas très gros, mais un éclatement à la sortie qui est vraiment impressionnant, qui non seulement détruit l'os, mais détruit toutes les parties molles, ce qui amène à des amputations, parce que en fait, la décision après d'être obligé de pratiquer une amputation, c'est pas uniquement sur l'aspect de l'os. Si l'os ne peut pas être recouvert de parties molles fonctionnelles, ce qui inclut également les vaisseaux et les nerfs, bien sûr, laisser quelqu'un avec une jambe qui n'a aucune fonctionnalité ne correspond à rien. Après, donc c'est vrai que ces amputations, c'est essentiellement des gens jeunes. Il y avait peu de personnes entre guillemets âgées. Après, ça dépend à quel âge on met la barre du niveau âgé. Si c'est comme pour la vaccination, on peut aller loin. Mais en l'occurrence, la plupart des gens qui participaient avaient, disons, entre 15 et 30 ans, quoi. Donc, c'est vrai que tous ces blessés sont des gens jeunes.
Oui, je confirme, hein. Effectivement, dans l'équipe de foot que j'ai suivie, il y en avait deux ou trois qui avaient eu des blessures il y a 10 ou 15 ans lorsque l'armée israélienne avait bombardé la ville de Gaza. Mais les cinq autres personnes, c'était des jeunes qui étaient allés sur la marche du retour, quoi. Et qui étaient allés de leur propre initiative, pas forcément pour des convictions, je dirais, politiques, mais qui sont allés avec leurs amis, etc., dans une espèce d'euphorie de vouloir prouver qu'ils étaient là présents, quoi. Enfin bon, effectivement, ils ont pris des balles. Je ne crois pas que ce soit des balles conventionnelles.
On avait eu le même problème sur la guerre précédente en 2014, où les Israéliens avaient utilisé le phosphore et où ça a toujours été nié, alors que moi je l'ai vu de mes yeux vus, hein, c'était bien du phosphore. Ça, je pense que c'est un peu le même problème.
D'ailleurs, si je peux poser une question peut-être un tout petit peu technique à propos de ces balles explosives, on lit quand même qu'il y a beaucoup d'infections après ces blessures. Est-ce que c'est dû au délabrement déterminé par l'explosion ou est-ce qu'il y a effectivement une potentialité infectieuse dans ces armes, dans ces munitions, je veux dire ?
Non. Le potentiel infectieux, il vient, enfin, les séquelles infectieuses ou les suites infectieuses viennent du fait de la première chirurgie qui est faite derrière.
Ah oui.
Si la première chirurgie qui est faite derrière est complète, c'est-à-dire qu'il y a une excision totale de tous les tissus qui ont été contus, dévitalisés, etc., il n'y aura pas d'infection, ou pratiquement pas d'infection derrière. Si par contre cette première intervention n'est pas faite ou mal faite, et on comprend très bien qu'elle puisse être mal faite quand il y a un afflux de patients, comme ça a été le cas sur certaines journées où on s'est retrouvé avec 100 à 120 plaies par balle dans la journée, on comprend bien que les chirurgiens locaux n'ont pas pu faire face à une excision correcte dans les normes de ce qui devrait être fait sur un nombre aussi important en une seule journée. Donc, par contre, là où on peut éventuellement discuter, c'est que ces interventions auraient dû être faites éventuellement le lendemain ou le surlendemain. Ça c'est une autre problématique, mais c'est tout aussi une conception de la façon dont les soins sont faits localement. C'est-à-dire qu'un des problèmes, mais ce n'est pas uniquement Gaza, c'est un peu dans beaucoup de pays hors Union européenne ou États-Unis, ou enfin, pays entre guillemets western, quand un chirurgien prend en charge un patient, c'est lui qui va être responsable de ce patient, un petit peu jusqu'au bout. Malheureusement, ce qu'on voit au Moyen-Orient et en Afrique, et ça pour moi c'est un vrai problème, c'est-à-dire que le chirurgien qui a fait la première intervention, le plus souvent n'est pas celui qui va faire la seconde ou la troisième, et qui n'est pas celui qui va assurer le suivi. Donc c'est un peu, je fais la première intervention, si elle n'est pas très, très bien faite, ce n'est pas grave, mais ce n'est pas lui qui va suivre conséquences. Ça, c'est un peu un vrai problème, et ça, je le retrouve partout en Afrique, à Haïti, au Moyen-Orient, etc. Mais c'est un autre débat.
Bon, des questions? Pas de questions?
Oui, je vais poser une question là, côté. Bon, il est impressionnant quand on suit les actualités au quotidien. Il n'est pas rare que sur une semaine complète, on n'ait pas au moins un, voire deux attentats qui se produisent dans tout le Moyen-Orient. Hein, je ne vais pas jusqu'à l'Afghanistan, le Yémen, la guerre, la Syrie aussi. Chaque fois, on a un bilan par les journalistes, tant de morts, etc. Mais on imagine que. À côté de ça, le nombre de victimes, de blessés est très conséquent. On ne les cite jamais parce qu'effectivement, les blessures, elles peuvent être de différents niveaux, j'imagine. Et donc, certaines méritent des traitements spécifiques. Et ce que vous avez pu réaliser donc avec Médecins sans frontières en particulier, mais d'autres entités. Ma question, elle est la suivante. Quels sont réellement, là, le film de MSF traite essentiellement les personnes qui ont été évacuées sur l'hôpital de Amman, apparemment en Jordanie, et qui sont traitées par cet hôpital. Mais en règle générale, comment ça se passe sur place? Quelles sont les capacités hospitalières face à ces multiples blessures? Comment sont traités la plupart des blessés? Voilà, en clair.
Là, c'est un peu difficile de répondre parce que c'est du cas par cas. Lorsqu'on est sur des zones où les hôpitaux n'ont quasiment rien, je prends le cas de la Centrafrique par exemple, en ce moment ça tape quand même pas mal, il y a toutes des zones où il y a quasiment rien, où quand il y a un hôpital, entre guillemets, il n'y a pas de chirurgie, où il y a une espèce de vague salle de pansement qui va servir éventuellement de bloc opératoire. Donc, comparer ça avec après un attentat qui a lieu à Bagdad, par exemple, où il y a quand même des hôpitaux qui sont aux normes, entre guillemets, de ce qu'on a dans nos pays occidentaux, la comparaison est difficilement possible. Le vrai problème qui se pose dans ces explosions, dans ces attentats, c'est le triage. Or, le triage, c'est quelque chose qui n'est pas encore entré dans la conception de leur traitement des patients. Et il y a quelques films qui circulent. Bon, moi, j'en ai un en particulier, mais je suis pas sûr que je puisse le montrer parce qu'après, il y a des gens qu'on peut reconnaître éventuellement dessus, donc c'est du film un peu confidentiel, mais c'est absolument hallucinant. C'est un film que je montre quand j'explique ce que c'est le triage à des collègues en petit comité, mais on voit à quel point c'est catastrophique et qu'il n'y a absolument aucune hiérarchisation des blessures. Ça va même au-delà, c'est-à-dire que lorsqu'on a par exemple le fils du cheikh local qui a une plaie au petit doigt, on va le faire passer devant l'urgence absolue qui n'est qu'un le qui-tam, enfin voilà. Donc c'est extrêmement compliqué. Mais pour moi, là où essentiellement il y aurait un gros progrès à faire, c'est ce qu'on essaye nous progressivement de mettre en place partout où on va en tout cas. C'est ce que l'OMS essaye de faire aussi, c'est leur apprendre comment faire un triage correct. Ça, c'est fondamental. Après, quel est le nombre de blessés par rapport au nombre de morts? Ça, alors là, je suis pas capable de répondre à ça. Ça dépend du type d'explosif qui a été utilisé. Ça dépend dans quel endroit l'explosion a eu lieu, si c'est un lieu clos ou un lieu ouvert. Enfin, après, il y a. Alors après, si c'est un lieu ouvert, il y aura, par exemple, il y aura beaucoup de blessés légers. Alors oui, ce sont des blessés, mais bon, si c'est juste des points de suture à mettre, c'est quand même pas dramatique. Enfin voilà. Je sais pas si j'ai été clair. J'ai pas l'impression.
Philippe, tu n'as pas ton micro.
Pardonnez-moi. Problème technique. Patrice, t'es footballeur là. Ils ont été amenés à Aubagne pour faire un match de foot, c'est ça?
Enfin, ils ont été amenés, c'est le collectif Solidarité Palestine de Martigues qui les a invités et leur a payé l'avion, etc., pour qu'ils puissent passer 3 semaines en France. Et ils ont fait leur dernier match de foot contre l'équipe nationale au bout de leurs 3 semaines, quoi. Auparavant, ils avaient fait un match en Corse et un match à Annecy. C'était donc la fin de leur séjour. Et ils étaient là, voilà, invités par les collectifs. Voilà.
Ouais. Et
Et donc, moi, je... Ah, pardon.
ils ont perdu tous leurs matchs ou ils en ont gagné quand même?
Non,
Tu
je crois
sais, question
qu'ils... Non.
idiote.
Ce qu'il faut savoir, c'est quand même cette équipe de Gaza, elle s'est constituée... Un an après la marche du retour, avec l'afflux énorme de gens amputés, ils ont eu l'idée de créer cette équipe, et donc cette équipe était toute récente, toute neuve. Donc ils n'étaient pas très expérimentés. Certains avaient fait du foot avant d'être amputés, mais ce n'était pas le cas
Ah oui, d'accord.
de tous. Et certains se sont retrouvés footballeurs avec une jambe, avec une expérience de 4 mois de foot, quoi. Face à une équipe nationale qui existe depuis 10 ans. L'équipe nationale française depuis même 15 ans, je crois. Donc, ils ont fait 5-1.
C'est pas mal.
Oui, c'est pas mal.
Ils en ont mis un, c'est bien. Ah
Mais
ouais.
ils étaient très contents de mettre leur but et je crois que les 500 personnes qui étaient dans le stade étaient très contents, qui étaient essentiellement pour soutenir la Palestine, étaient vraiment très heureux qu'ils marquent un but, quoi.
Oui, bravo. Bravo,
Ouais.
bravo. Bon, des questions, Françoise, non, tu n'as pas de questions? On reste. Pardon,
Si,
vas-y.
si. Oui, j'ai une amie, enfin une jeune que j'ai eue comme élève il y a longtemps, qui était bosniaque et qui avait été blessée à la jambe par un éclat d'obus. Et sa maman avait refusé l'amputation et donc elle avait fait envoyer, c'était, je crois que c'était MSF, hein, qui avait envoyé la petite en France. La maman a rejoint ensuite et donc elle n'a jamais été amputée. Mais sa jambe n'a jamais guéri. Hein. Actuellement, elle est adulte, elle travaille, mais elle est toujours sur béquille et sa plaie se rouvre régulièrement. Alors ici, quand elle est arrivée, au bout d'un temps, on lui a dit, mais madame, vous n'avez pas fait le bon choix, vous auriez dû faire amputer votre fille, elle va porter ce poids toute sa vie. Alors voilà, un choix extrêmement difficile et il n'y a pas vraiment de solution. Elle pourrait encore le faire, hein, on le lui dit, mais... Il faut du courage pour se lancer. Je ne sais pas ce que vous pensez de ce genre de situation.
C'est extrêmement difficile. Quand on me pose ce genre de questions, je réponds toujours par l'histoire du fils de Depardieu, qui a eu un banal accident de scooter à Paris, qui s'est retrouvé avec une fracture ouverte du tibia, qui a été opéré. Vous pouvez imaginer que ce n'était pas les plus mauvais chirurgiens de Paris qui s'en sont occupés. Il a été opéré 12 fois. Parce que tout ça s'était infecté et ça s'est terminé par une amputation. Donc, même dans les meilleures mains, au meilleur endroit, une fracture entre guillemets simple, qui n'a rien à voir en plus avec une fracture, avec une plaie de guerre, peut se terminer très très mal. Après, pour moi, le problème de l'amputation, c'est pas tellement. Après, il y a toute une discussion qu'on peut avoir sur essayer de trouver des classifications pour savoir qui va le plus bénéficier d'une amputation par rapport à une reconstruction qui va. Il faut quand même bien comprendre qu'une reconstruction, comme on le fait à Amman sur des fractures qui ont été infectées, c'est une histoire de 18 mois à 2 ans, avec plusieurs interventions. Donc, c'est fonction de l'âge, c'est fonction de ce que les patients veulent. Il y a d'autres facteurs qu'il faut aussi prendre en compte. Il y a certains pays, par exemple, où vous ne pouvez juste pas amputer. Il y a un chirurgien qui, en Somalie, a été tué parce qu'il avait fait une amputation,
Voilà.
parce que c'est strictement interdit par la religion et localement par les tabous, entre guillemets, locaux. Donc, il y a un chirurgien qui en est mort d'avoir fait une amputation sans le consentement de la tribu. Voilà. Donc, il y a des paramètres à prendre en compte. Il n'y a pas uniquement les paramètres propres au patient, du type de sa blessure, de l'être infecté ou pas, il manque beaucoup d'os ou pas, etc. Il y a aussi des paramètres religieux, des paramètres locaux, des espèces de tabous locaux, ou éventuellement, dans certains pays d'Afrique, on va faire plus confiance aux guérisseurs, qui aura plus de pouvoir en promettant qu'il sauvera la jambe, etc. etc. Donc, on peut aller extrêmement loin. Après, il y a des tas d'études qui ont été faites et où, en fait, les données sont quand même très, très difficiles à interpréter, parce que si vous êtes amputé en France ou aux États-Unis, on va vous mettre une prothèse qui va aller parfaitement, qui va vous permettre de faire à peu près ce que vous voulez. Et cette prothèse, quand elle va poser un problème, on va vous la changer au bout de 2, 3, 4 ans ou tous les 2, 3, 4 ans s'il faut. Si vous êtes à Haïti ou au fin fond de l'Afrique, cette prothèse, si vous avez de la chance, vous allez en avoir une. Au bout de 2 ou 3 ans, elle ne tiendra plus ou mal et personne ne sera là pour vous la changer. Donc, il faut bien mettre en balance à chaque fois quel est l'intérêt du patient, aussi bien sur le court terme que sur le long terme.
Oui, moi il y a des raisons culturelles très importantes. Moi, j'ai le souvenir personnel, c'est pas une histoire chirurgicale, mais plutôt médicale, en Centrafrique, justement, dont tu parlais tout à l'heure, d'une personne, d'une vieille dame, qui avait une ischémie aiguë d'un membre, et la famille a absolument refusé qu'elle soit amputée. Et donc, elle est morte dans mon service, dans d'affreuses douleurs. Enfin, c'était épouvantable, cette histoire.
Hein, on ne peut pas aller contre... Une ischémie aiguë. Contre la volonté.
Ouais. Et pourtant, c'était des gens évolués, donc c'était vraiment étonnant.
Ouais, bien sûr. Ouais. Mais ça, je n'amputerai personnellement jamais contre son avis.
Oui, tout à fait.
C'est pas possible.
Pierre, on ne t'entend pas. Pierre, il ne parle pas.
Je voulais poser une question sur Gaza. Est-ce qu'actuellement, cette mécanique des marches de retour sanctionnée par l'armée israélienne par des tirs ciblés par des snipers, puisque c'est un véritable jeu de tirer sur les jambes des jeunes manifestants, est-ce que ce processus continue? Je veux dire,
Non.
Oui.
Non. Il y a plus de manifestations actuellement, depuis le Covid. Après, effectivement, ce que vous dites est juste, ils les tirent comme des lapins.
Oui.
Non, mais depuis le Covid, il y a plus de manifestations, quasiment plus. Par contre, il faut qu'on répare tous les 1200 fractures ouvertes que l'on a reçues. Donc, vous imaginez ce que ça peut représenter comme 1200 fractures ouvertes. C'est... Même en France, en les répartissant bien un peu partout, ça serait compliqué. Donc, à Gaza, vous pouvez imaginer ce que ça peut donner. Avec en plus des patients, s'ils ont un tout petit peu de sous, ils vont aller en Égypte en passant la frontière par les tunnels ou par ce qu'on voudra, où ils vont être souvent opérés par des voyous qui vont leur prendre leur argent pour leur faire n'importe quoi.
Si je peux intervenir.
Oui.
Ouais. Deux choses. Là, je parle politique, je ne suis pas du tout médecin. Hein. Sur les marches du retour, il y a eu une décision politique qui a été prise il y a maintenant pas mal de temps, un an et demi, de les arrêter, mais c'est nous qui sommes en faute. C'est-à-dire que les marches du retour devaient être relayées par l'opinion publique mondiale. La population marchait en disant « on est enfermé, 2 millions de personnes sont enfermées, on n'en peut plus, on rentre chez nous ». Ils s'attendaient à ce qu'il y ait des manifestations dans le monde entier pour les soutenir, et c'est devant le manque de manifestations qu'ils ont décidé d'arrêter, après avoir eu en gros 350 morts et 8000 blessés, donc des blessés extrêmement graves. Sur… Les tunnels, non, hein, ils ne fonctionnent plus. Moi-même, quand j'étais en 2016 à Gaza, déjà, il n'y avait plus que pour les cigarettes que très, très peu de tunnels fonctionnaient. Autant il y a eu un moment où l'économie de Gaza fonctionnait avec les tunnels, autant le dictateur Sissi les a noyés, il n'y a plus. Tout le trafic était en fait un trafic familial, parce qu'à Rafah, c'est les mêmes familles de part et d'autre de la frontière, a cessé.
Oui, mais enfin, il y a toujours beaucoup de Gazaouites qui vont en Égypte. Hein.
Oui, mais ils vont en Égypte, pas du tout par les tunnels.
Oui, enfin, par là, oui.
Maintenant, depuis 15 jours, la frontière est ouverte et il y a beaucoup, beaucoup plus de gens parce qu'il y a une queue pour passer la frontière. Oui, parfois, oui. Il faut attendre plusieurs mois et maintenant, il y a une très, très nette accélération de la possibilité d'entrer ou de sortir par Rafah, ce qui est relativement oui. nouveau.
Oui. Enfin, les cigarettes continuent toujours à bien rentrer par les
bah, les hélas, oui,
ou leur équivalent.
Ce que les Israéliens ne font pas en les tuant à l'arme à feu, c'est la cigarette qui le fait. On essaie de l'expliquer à tous nos amis palestiniens, mais ils sont mal convaincus.
C'est un combat perdu, ça.
Tout à fait.
Bon, enfin, c'est compréhensible.
Ben, bien sûr. Ouais.
Bon, ceci dit, ça pose la question de ces blessures de guerre qui perdurent malgré les atrocités. Enfin, il y a eu plusieurs documents... là-dessus, récemment cette semaine, je crois, il y a un document épouvantable sur la guerre de 14 qui est passé à la télé. Il y a quand même des choses tout à fait célèbres comme Johnny Got His Gun ou le prix Goncourt là, revoir là-haut, enfin tout ça, et on n'arrive absolument pas à arrêter ces armes dégueulasses, quoi. C'est vraiment dégueulasse, c'est je sais pas comment dire. C'est décourageant. Les vieux humanitaires, parfois, on est un peu...
Voilà. Je voulais dire que sur Gaza, c'est un terrain d'expérimentation pour les armes nouvelles.
Oui, probablement.
Ce que les Israéliens font à Gaza leur permet de vendre les armes en disant, vous voyez, ça a servi et c'est efficace.
Absolument. Mais aussi, les Américains leur en donnent pour les tester aussi.
Ouais. Et pas les Français ?
Ah, ça, je ne sais pas. En tout cas, je sais pour le Yémen, mais je ne sais pas pour Gaza.
Dans l'actualité, sur les fronts, sur ce Moyen-Orient, sur les fronts du Moyen-Orient, où est-ce qu'il y a actuellement le plus de violence à l'égard des populations civiles ? Parce que bon, on finit par se perdre un petit peu entre la guerre de Syrie, la guerre du Yémen, l'Irak où il y a en permanence des attentats, il y a l'Afghanistan aussi. Bref, par rapport un petit peu à ce que vous percevez au niveau des structures hospitalières, voilà.
Bah, sur les populations civiles, en fonction des missions qu'on peut avoir nous, moi je dirais qu'en premier les Syriens, les Kurdes. Après le Nord-Yémen, enfin le Sud-Yémen comme on veut, parce que et puis Gaza. Après, dans l'ordre, en nombre, bon, j'ai pas les chiffres, mais les Kurdes y prennent quand même très cher, même si on passe sous silence. Je pense que ça arrange tout le monde. La population syrienne, les choses semblent se calmer entre guillemets un petit peu. Sur le nombre de blessés. Gaza, ben, pareil, ça se calme. Par contre, le Yémen, ça ne se calme pas. Hein.
Il y a aussi les Rohingyas en Birmanie, enfin, par l'armée birmane.
Birmane, oui. Ouais,
qui font n'importe quoi aussi.
Ouais, ben là, par contre, j'ai pas de réponse. Hein. Je n'y ai pas été, donc je ne peux pas vous dire.
Pour les armes, là, je voulais dire que c'est le contraire. En fait, je ne sais pas si la France vend des armes à Israël, mais Amnesty avait repéré que pendant les manifestations récentes, il y avait des armements israéliens qui avaient été utilisés par la police française. Bon, donc, il y a des choses pas nettes.
Là, je me méfie beaucoup des infos comme ça. Hein. Je pense que la France est suffisamment grande pour construire des armes comme ça, hein. Mais bon.
Pas sûr, qu'on s'appelle
le LBD, là.
Le LBD, c'est pas français, si?
Oh, je pense que si.
Non, je crois pas. Enfin bon, j'en sais rien.
Enfin, en tout cas, si c'est pas français, on est capable de le fabriquer. Hein.
Oui.
Non, je pense que la question n'est pas là. Enfin, bon.
Aussi, quand on voit comment un gouvernement occidental démocrate a sa police.
Si j'interviens.
mutilante comme ça, c'est quand même étonnant. Hein. Utilise.
Comme on parle armement, il y a un excellent film israélien qui s'appelle The Lab, le laboratoire, qui est fait par un anticolonialiste israélien et qui raconte justement le complexe militaro-industriel israélien, comment ils ont des armes qui n'existent qu'en Israël. En particulier, ils ont un fusil à tirer dans les coins, c'est-à-dire qu'eux voient leur cible, mais la cible, elle voit juste un tout petit bout de canon qui est tourné et elle ne peut pas voir la personne qui les vise. Et dans ce film, The Lab, on voit les polices du monde entier, essentiellement d'Amérique latine, venir se former en Israël au maniement de ces nouvelles armes.
Ouais. Vive l'humanité. Bon. Il n'y a plus de questions.
Je crois que ce film The Lab, il était passé à l'époque où le festival s'appelait le Festival international des films de droits de l'homme. Je crois qu'on l'avait passé même à Toulouse. Effectivement, il était assez révélateur de la haute technicité des industries d'armement israéliennes qui se vendent à travers le monde. Mais les nôtres aussi, on n'est pas les derniers, c'est clair.
Peut-être une question au sujet de la résilience, de la reconstruction psychologique là, de toutes ces personnes. Bon, il y a des profils très différents, il y a des jeunes, les deux jeunes défigurés là, dans le deuxième film, et puis il y a des adultes qui doivent après retrouver une place dans la société, mais les jeunes aussi, tôt ou tard. Donc là, on a parlé, je crois, de suivi psychologique aussi. Qu'est-ce qui se fait à Amman? Qu'est-ce qui se fait ailleurs en France pour ça?
Qu'est-ce qui se fait à Amman? Ce que je vous ai dit tout à l'heure, on a d'une part pour les enfants une scolarisation dans l'hôpital.
Oui.
Et puis, on a des psychologues. Qui voit chaque patient est vu individuellement par un psychologue. Et ils sont suivis pendant tout le temps de leur hospitalisation à Amman. L'hospitalisation étant souvent multiple, hein, c'est-à-dire qu'ils ont souvent des gens qui ont besoin de deux voire trois interventions avec des séquences de quelques mois en intervalle. Et cette psychothérapie est reprise à chaque réadmission de patient. Après, quand ils rentrent chez eux ou là, entre les interventions, s'ils restent à Amman dans un hôtel, parce qu'on loue un hôtel où des gens peuvent rester entre leurs interventions, mais pour certains, ils rentrent dans leur pays, c'est le cas de l'Irak en particulier, et ils reviennent pour la deuxième intervention. Là, entre les deux, il est bien évident que sur place, en Irak, ils n'ont pas ce soutien psychologique qu'on leur apporte nous. Mais bon, on peut pas faire. Enfin voilà, on peut pas aller au-delà de ce qu'on fait. Mais je pense que ce qu'on fait, on le fait pas mal. Et surtout, on a insisté beaucoup sur cette composante de soutien psychologique de nos patients. Mais c'est particulier à Amman. Hein. On le fait. Disons que à MSF, on le fait sur les missions où on reste un certain temps. On le fait à Haïti, on le fait au Yémen, on le fait, etc. Mais sur des missions pérennes, disons des missions qui ont minimum 6 mois, 1 an, 2 ans, quoi. Voilà. Sur des missions courtes, c'est très compliqué.
Mmh. Oui, bien sûr.
Mais sinon, c'est un composant pour nous extrêmement important.
Le film de MSF s'appelle Une deuxième vie parce qu'effectivement, c'est une telle rupture dans l'existence pour beaucoup que certains envisagent une deuxième vie. Alors, c'est le cas du jeune Syrien là, qui exprime le fait qu'il ne veut pas voir ses photos d'avant sa première vie. C'est assez fort comme témoignage. Et puis, il y a ce monsieur qui a perdu ses jambes, je crois qu'il est yéménite, non, je ne sais plus, peu importe, qui, lui, envisage d'émigrer au Canada. Est-ce que cet aspect émigration, est-ce qu'il y a des gens qui arrivent à partir de ces de leur situation à partir, à être accepté ailleurs. Je ne sais pas, je pose la question.
Ça, je ne sais pas.
Alors, pardon, si je peux poser une question. Patrice, justement, tu avais le sentiment que les Gazaouis que tu as vus, ils avaient eu un soutien psychologique organisé à Gaza. Je sais que Médecins du Monde a fait des missions dans de cet ordre-là.
Je ne peux pas te dire, je ne sais pas s'il y a des soutiens psychologiques. Je crois que oui, hein, mais ce que je sais par rapport à, là, puisqu'on parlait d'immigration, c'est que ben, ils souhaitent rester à Gaza, mais parmi cette équipe de football, il y en avait quelques-uns qui avaient suffisamment de revenus et ils ont pu aller aux États-Unis se faire des prothèses, quoi. Mais c'est vraiment l'exception, quoi. C'est vraiment l'exception parce que la plupart des gens n'ont pas suffisamment d'argent et de revenus pour pouvoir le faire. Et donc, voilà. Donc, je les vois, je les suis régulièrement sur Facebook, sur leur compte Facebook, et ils prennent des initiatives. Alors, je pense que ça contribue. Ils ont une émulation pour faire non seulement du sport dans le domaine du football, mais aussi pour faire des, je ne sais plus comment ça s'appelle, du saut de pierre en pierre, etc. Enfin, ils organisent des associations…
De parcours.
De parcours, voilà, c'est ça. Et je sens une espèce d'émulation chez eux qui, à mon avis, doit leur apporter beaucoup de bien au niveau psychologique, non seulement physique, mais psychologique, quoi. Je sens quelque chose qui est positif, quoi. Et j'ai l'impression qu'il y a aussi des gens, mais ça concerne essentiellement les gens qui ont pu se faire une prothèse qui coûte très cher aux États-Unis.
Pourtant, il y a quand même une ONG française, Handicap, qui est très très compétente et qui est capable de faire des choses merveilleuses dans le coin du monde. Et ils ne sont pas à Gaza.
Je ne peux pas dire, je ne sais pas.
Je sais pas.
Alors, ce n'est pas Handicap, mais par contre, il y a d'autres ONG hein, qui sont à Gaza et qui font de la prothèse. Hein. Parce que nous on fait appareiller nos amputés à Gaza. On a une cellule, tout à l'heure on parlait de psychologie, je parlais de Haman, etc. Mais bien évident, Gaza fait partie pour nous des missions pérennes où on a un soutien psychologique aussi.
Ouais.
Alors, il est évident que la qualité des prothèses qui sont faites à Gaza par des ONG ou par l'ONS d'ailleurs aussi, ce n'est pas la qualité des prothèses que les gens vont avoir aux États-Unis ou en France. Hein.
C'est ce que j'avais compris.
Mais aussi, le problème, c'est que même ces gens qui ont été se faire une prothèse extraordinaire ou très sophistiquée aux États-Unis ou bien ailleurs, dans 3-4 ans, cette prothèse, il faudra la changer.
Oui.
Et voilà, est-ce qu'ils auront les moyens de se repayer? Enfin, voilà, c'est pas évident. Hein.
Oui. Effectivement, hein, je ne sais plus, j'avais vu une vidéo, effectivement, il y avait un artisanat de fabrication de prothèses. Quoi.
Ouais. Il y a le CICR qui les a formés aussi, qui avait une cellule de formation.
Je voulais ajouter quelque chose qui n'est pas médical sur Gaza, mais qu'il faut bien réaliser. Sur 2 millions d'habitants, les gens très vieux, bon, ils ont connu le monde extérieur. La génération d'âge moyen, ils ont travaillé en Israël, mais les 65% de la population qui ont de moins de 25 ans, ils ne sont jamais sortis de la cage. Et quand on leur en parle, ils ont tous l'envie, le besoin de connaître le monde extérieur. Certains pour partir définitivement, d'autres pour revenir. Après, la principale raison pour laquelle les Gazaouis ne sortent pas, c'est qu'ils n'ont pas de visa, ni pour les États-Unis, ni pour l'Europe, ni pour nulle part. C'est-à-dire que même pour arriver en Égypte déjà, il leur faut un visa pour aller plus loin, et c'est refusé à tout le monde. Donc, les amputés l'ont eu de façon exceptionnelle, mais l'écrasante majorité de la population, y compris les malades, ne sera jamais un visa on est sur soigner ailleurs.
Pierre, on t'entend plus bien là, hein, Pierre.
Et là, on t'entend. Je parle plus là, je me suis arrêté.
Oui. On n'a pas entendu tout à fait la fin de ton intervention, mais bon.
Je voulais poser une question concernant justement le rôle des ONG dans ces conflits. Comment ça se passe en fait? Parce que si on regarde rien que sur la France, j'en connais au moins quatre qui interviennent sur le Moyen-Orient. Il y a Médecins du Monde, il y a Médecins sans frontières, on a Handicap International, on vient d'en parler. Il y a l'UOSSM, l'association de Raphaël Kiki, que l'on a interviewé il n'y a pas si longtemps sur la Syrie, justement, où ils sont présents, sur les camps en Syrie. Alors, ça, c'est rien que pour la France, mais j'imagine que les autres pays, c'est pareil, ils ont autant d'ONG qui sont présentes aussi. Comment est-ce qu'il y a une réelle coordination? Est-ce qu'il y a une réelle coordination? On sait bien que sur des pays comme Haïti, Patrick Herrera en a parlé tout à l'heure, c'est un petit peu compliqué, cette coordination-là. Mais comment ça se passe, en particulier au Moyen-Orient? Est-ce que c'est efficace ou est-ce que ça pose problème?
Il y a toujours une coordination. En général, c'est l'OMS. La coordination, elle marche plus ou moins bien en fonction de l'acceptation ou de l'acceptabilité de cette coordination. C'est-à-dire que quand l'OMS se comporte en régent absolu, il y a pas mal de gens qui vont un petit peu regimber tout ça. Quand ça se comporte de façon intelligente, il n'y a pas trop de problèmes. Mais il y a toujours une coordination par l'OMS, que ce soit à Gaza, à Haïti ou au Népal quand il y a eu le tremblement de terre. Oui, il y a toujours une coordination de l'OMS. Mais je trouve personnellement qu'elle est trop personno-dépendante au niveau après de la qualité. Alors, c'est vrai que on est mal placé à MSF parce qu'on a toujours un peu de mal à se placer sous la coupe de l'OMS. On tient complètement à notre indépendance et donc on va intervenir même dans des endroits où l'OMS ne veut pas qu'on aille éventuellement ou vice-versa. Donc ce n'est pas toujours très, très, très simple. Mais encore une fois, quand l'OMS se comporte de façon intelligente pour nous, hein, de notre vision, ça se passe très bien.
C'est-à-dire que moi, je dirais que c'est toujours des histoires de personnes.
Oui, exactement. Voilà,
c'est une personne et parmi ceux qui coordonnent et parmi ceux qui veulent participer à quelque chose de coordonné. Donc, parfois, c'est très compliqué. Moi, j'ai eu des terrains où c'était très compliqué parce qu'il y avait des fortes personnalités qui n'arrivaient pas du tout à diminuer leur ego. Enfin, voilà.
Oui, bien sûr.
Oui, compétition, bien sûr. Souvent. C'est vrai que souvent, la coordination par les UN est pas, enfin, voilà, c'est pas toujours opérationnellement hyper efficace.
Il y a quand même eu un gros changement à partir de Haïti. Ça, je peux facilement en parler parce que j'étais partie prenante, hein, parce que j'ai été consultante pour l'OMS pendant toute une période pour sortir de cette histoire de Haïti. Il y a quand même eu le constat que sur 320 ONG ou équivalents qui sont intervenus sur Haïti, le constat était quand même qu'il y avait grosso modo une trentaine qui étaient compétentes, ça veut dire qu'il y en avait 300 qui ne l'étaient pas. Donc l'OMS a pris un peu ça comme un challenge et a créé un comité pour voir comment on pouvait sortir de ce type de problème. D'où la création de ce qui s'est au début appelé les EMT, hein, les Emergency Medical Teams, qui s'appellent maintenant les Foreign Medical Teams, avec un bouquin qu'on a sorti, dont je suis le co-auteur, hein, vous pouvez le prendre, il est en téléchargement gratuit sur le site de l'OMS, où on a défini quels étaient les critères acceptables pour que des unités viennent intervenir sur des catastrophes, sur des lieux de guerre, sur etc. Et ça a très bien marché parce que ça a débouché sur une entente de pratiquement tous les pays maintenant au monde à ne plus accepter sur des catastrophes, qu'elles soient faites par l'homme, par des guerres ou par des éléments naturels comme le tremblement de terre, ça a quand même amené à ce que les gouvernements sont informés et n'autorisent plus maintenant les gens qui ne sont pas très qualifiés par l'OMS à intervenir. Et quand on voit ce qui s'est passé au Népal, par exemple, il y a des équipes qui n'ont pas été admises même à atterrir, en disant non, vous n'êtes pas très qualifié, donc vous ne venez pas. Ces suites de Haïti ont été, entre guillemets, très bénéfiques à ce niveau-là. Donc, il y a toute une coordination qui s'est mise en place, et si les équipes ne sont pas très qualifiées, elles ne peuvent plus partir. Donc ça amène à une meilleure prise en charge par les ONG, quelles qu'elles soient. Et ça oblige les ONG qui n'ont pas les moyens de le faire, de ne pas le faire. Voilà, aussi. Ce qui n'est pas plus mal. Parce que l'église mormone de Petahushnok aux États-Unis, qui venait avec une valise de clous, de vis et de plaques et de n'importe quoi, et alors qu'il n'y avait pas de bloc opératoire, et qui ensuite faisait du prosélytisme auprès de leurs fidèles pour récupérer en fait du fufric, ça a été monnaie courante. Hein. Donc ça, c'est toute une problématique qui, j'espère, avec le travail que l'OMS a fait, va disparaître.
J'espère. Franchement, j'espère que tu as raison, parce que je t'écoutais. Chaque fois qu'il y a une grosse crise, c'était ce qu'on appelle un barnum humanitaire effrayant, effectivement, avec beaucoup d'incompétences et beaucoup de gens qui faisaient n'importe quoi. Mais inversement, même au Népal, il y a des gens qui auraient pu y aller, il y a des passe-droits, il y a des machins politiques. Enfin bon, c'est pas. Les choses ne sont pas, pour moi.
En fait, les besoins au Népal ont été très faibles.
Oui, mais bon, tout le monde voulait y aller, c'était toujours pareil.
Bien sûr. Bien sûr.
Mais bon, si ça marche, c'est bien. Tant mieux, tant mieux.
Je pense que le Népal est un exemple qui a montré que ça marchait. Hein. Il y a plein d'équipes qui ont été interdites.
Hein. Oui, mais enfin, il y a beaucoup de gens qui sont beaucoup pleins enfin, en même temps. Alors,
ils n'ont qu'à se qualifier.
Ouais.
Ils sont très qualifiés.
D'accord. Bon. Ça fait une heure qu'on, un peu moins d'une heure qu'on discute. Qui veut encore intervenir, poser une question ou un commentaire? Bon, on arrête. On arrête. Désolé, chers intervenants, pour cette. Réunion faible, on va dire. Hein. Merci beaucoup pour votre intervention tout à fait pertinente, pleine de substance et de précision. Hein. Je vais annoncer, il n'y a que des gens qui connaissent. Donc, si, je vais quand même annoncer la semaine prochaine. La semaine prochaine, on présentera le film Bénin Europe, gagnant-gagnant, qui traite de la souveraineté humanitaire en Afrique. Pour un débat le 27 février. Et la semaine d'après, c'est à propos de la Syrie. C'est la Syrie qui sera à l'affiche, pardon, à propos de Pour Sama, journal d'une mère syrienne, un film absolument choc, hein, à propos du siège d'Alep entre 2011 et 2016, pour un débat donc le 6 février avec des intervenants de grande qualité aussi. Voilà. Merci à tous. Merci, chers intervenants. Je suis désolé, hein, mais bon, c'était quand même très intéressant. Voilà.
Merci.
À bientôt. Et merci beaucoup.
De rien, au revoir.
Au revoir.
Bonsoir.
Au revoir.
Au revoir, Philippe. Au revoir à tous.